Nous avons un fils. Il est roi. Nous sommes régents. Et nous possédons Monsieur Mazarin comme Premier ministre. Tout va pour le mieux.
Bonjour, aujourd'hui deuxième épisode de notre série consacrée à Anne d'Autriche, l'épouse de Louis XIII et mère de Louis XIV. Comment Anne d'Autriche est-elle devenue régente absolue de la France? Question que nous nous posons toute cette semaine avec l'historien Joël Cornette. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué l'enfance de cette princesse espagnole et son mariage en 1615 avec Louis XIII. Un mariage d'État qui va mettre du temps à être consommé. Le 16 mai 1616, quand Anne d'Autriche découvre pour la première fois Paris et le Louvre, la sinistre résidence de la cour de France, la « petite reine », comme la foule parisienne l'appelle affectueusement, n'est pas seule. Elle arrive accompagnée de nombreux courtisans espagnols. Ainsi le veut la tradition, pour permettre à la jeune épouse de garder un lien avec son pays et sa langue d'origine. Mais cette présence hispanique, jugée trop importante par Louis XIII et sa mère, jusqu'à être perçue comme une intrusion d'espions et d'espionnes, devient vite une pomme de discorde dans le couple royal, qui déjà fait chambre à part et ne semble toujours pas prêt, loin de là, à concevoir un héritier. Pendant que Louis XIII, timide, complexé, bègue et de plus en plus méfiant, congédie peu à peu tout l'entourage espagnol de son épouse, il se réfugie dans les activités qu'il affectionne, la musique, la danse, le jeu de paume et, par-dessus tout, la chasse à l'épervier qui l'entraîne des jours entiers dans les bois, loin des tracas du Louvre et de la cour. C'est dans cet état d'esprit que Louis XIII fera construire un relais de chasse à Versailles, l'embryon de ce que sera un jour le palais de son fils Louis XIV. 4 ans et demi après leur mariage, alors que les Français et les Espagnols s'impatientent de voir enfin la reine donner naissance à un héritier, mâle de préférence, il faut attendre le 25 janvier 1619, la date est connue de tous, pour que le jeune roi se décide, sans doute à reculons, à rendre visite à son épouse dans sa chambre. Mais plusieurs fausses couches amènent le roi à se détourner pour de bon de la reine, au point de lui exprimer une véritable hostilité, visible de tous. À partir de 1622, le couple n'existe plus. Il faudra attendre 16 ans pour que la reine donne naissance au petit Louis, futur Louis XIV.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
De son côté, de plus en plus seule, Anne d'Autriche, fervente catholique, se réfugie dans la prière, le culte des reliques et la compagnie des nonnes du couvent du Val-de-Grâce. Mais le 13 juin 1625, lors d'un bal, alors que la reine se trouve à Amiens, en l'absence de Louis XIII, un événement va bouleverser sa solitude. L'apparition d'un bel homme de 33 ans, le duc de Buckingham, aristocrate anglais à la fière allure. Grand, mince, moustache effilée, boucle blonde, sûr de lui, regard intrépide.
Madame, puisque le hasard me permet de vous rencontrer...
Je ne crois pas beaucoup à ces hasards, Milord. Je me demandais pourquoi on me voulait faire visiter ce jardin.
Je vous en supplie. Prêtez l'oreille aux propos d'un misérable.
Mais que me comptez-vous?
Fermeriez-vous la bouche au plus soumis de vos adorateurs?
Votre grâce oublierait-elle que...
Que votre majesté est reine de France? Oh non.
Non, ce n'est pas cela. Oublieriez-vous plus simplement que je suis mariée?
Je vous en conjure.
Comment pourrait-elle lui résister? D'après une confidente, la reine le trouva bien fait, l'âme grande et magnifique.
Madame!
Laissez
madame,
où j'appelle!
Par pitié!
À moi! À moi, ne me laissez plus seule!
Mais d'après un chroniqueur, ce Buckingham, bouquinquant comme disent alors les Français, profitant un moment de l'obscurité d'un bosquet, je cite, culbuta la reine, lui écorcha les cuisses avec ses chausses en broderie, mais ce fut en vain, car elle fit un cri auquel tout le monde accourut. Une scène de tentative de viol qui est accréditée par plusieurs témoignages. La chronique raconte ensuite que Buckingham, congédié, aurait cherché à se faire pardonner de la reine. Se faire pardonner d'un viol, on était bien avant MeToo. La reine, en guise de pardon et ou d'affection, lui aurait alors offert en secret des ferrets de diamants, ferrets qui lui avaient été donnés par le roi, etc., etc. Comment faire la part entre la vérité historique et l'invention littéraire des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas? Alors, on peut comprendre que cette jeune femme délaissée ait pu éprouver de l'attirance pour ce Buckingham, mais je le connais. Vous semblez-vous sous-entendre dans votre livre qu'il s'agit non pas d'une histoire romantique à la Dumas, mais bien d'un coup monté dans le but de compromettre la reine.
D'une certaine façon, c'est vrai que la reine est entourée de cabales, d'envieux, qu'il y a des clans à la cour, et c'est vrai que Buckingham a exercé sur elle une sorte de fascination, ça c'est absolument indéniable. Sa suivante le raconte dans ses mémoires, Madame de Motteville, mais dans la réalité, je pense que les choses ont été plus soft, si vous me permettez, d'autant que la vie de la reine est publique, donc tout se voit, tout se sait, très vite. Alors, il y a eu une attirance, certes, mais qui n'est sans doute pas allée aussi loin que Dumas le raconte. Oui, et l'affaire des Ferrets de la Reine, justement, c'est juste une source, c'est les mémoires de La Rochefoucauld. La Rochefoucauld était très jeune à l'époque. D'ailleurs, beaucoup de choses ont été inventées par Dumas. D'Artagnan n'existait pas encore, hein, ce sera plus tard. Mm-hmm. Donc, il y a là vraiment une matière romanesque, mais qui a été largement exagérée. Cela dit, la solitude de la reine est une explication. C'est-à-dire que vous avez insisté sur le fait, avec raison, que les relations avec son époux sont très froides, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, l'arrivée de ce jeune Anglais l'a extrêmement fascinée, et la fascination a été réciproque.
Mais s'agit-il d'un coup monté par Richelieu ?
C'est difficile à savoir.
Qui quand même cherche à la troubler.
C'est vrai qu'entre Richelieu et la reine, il y a une distance très forte. Richelieu est très misogyne, veut mettre la reine à l'écart. Cela dit, c'est aller trop loin. Je pense qu'on a beaucoup exagéré, si vous voulez, cet événement.
Mais Richelieu n'y est pour rien.
Je ne crois pas.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une mésentente au sein du pouvoir, déjà dans le couple, et Richelieu et Louis XIII sont dans une politique à ce moment-là de distance par rapport à l'Espagne. Évidemment, pour Anne d'Autriche, c'est compliqué.
Tout à fait. C'est vrai que Richelieu a une politique de plus en plus anti-espagnole, et il est vrai qu'il s'est rapproché de Louis XIII par rapport à Marie de Médicis, parce qu'à l'origine, Richelieu est presque le secrétaire de Marie de Médicis. Or, très très vite, il va devenir le principal ministre. Mais en 1625, nous sommes encore au tout début, si vous voulez. C'est pas encore le Richelieu totalement affirmé tel qu'il le sera après les Journées des Dupes, c'est-à-dire 5 ans plus tard, en 1630. Donc vous voyez, faut pas, je crois, appliquer sur cet épisode ce que nous savons ensuite de la relation entre Richelieu et Louis XIII et la notion de raison d'État, en quelque sorte, qui va triompher au cœur de la cour et au cœur de la monarchie.
À plusieurs reprises, la reine est accusée de trahison. En 1626, soupçonnée d'avoir souhaité la mort du roi, elle est interrogée, comme à un tribunal, assise sur un tabouret face à son mari, le roi, et sa belle-mère. Un moment humiliant. Mais le pire arrive en 1637, alors que la France et l'Espagne sont en guerre ouverte depuis 2 ans. Richelieu, grâce à ses nombreux espions, met la main sur des lettres compromettantes, cryptées, que la reine a échangées avec la monarchie espagnole et qui la rendent coupable d'intelligence avec l'ennemi. Le cardinal en informe le roi et fait perquisitionner le couvent du Val-de-Grâce. Le 15 août 1637, interrogée par Richelieu et le roi, la reine jure sur l'hostie qu'elle est innocente. Mais 2 jours plus tard, elle craque et avoue.
Je crois que c'est la pire journée, effectivement. Nous sommes en 1637 et la France et l'Espagne sont en guerre, l'une contre l'autre. Guerre ouverte depuis 1635. Vous imaginez, la reine est espagnole. Et la reine continue à écrire, mais à écrire à qui ? À ses frères. Elle était la fille aînée, et son frère c'est le roi d'Espagne, son autre frère c'est le gouverneur des Pays-Bas, et cette correspondance a des allures de trahison. C'est-à-dire que pour Richelieu et pour Louis XIII, c'est pratiquement un crime de lèse-majesté. Alors dans un premier temps, elle a nié, mais devant le fait accompli, elle a été obligée, disons, de reconnaître qu'elle a écrit et qu'elle a transmis. Alors est-ce que c'est des secrets d'État ? Mais c'est vrai qu'elle rapporte par exemple des liaisons entre la France et l'Angleterre. Ça, on le sait par les archives espagnoles. Donc effectivement, il y a eu une sorte, comment dire, presque de tribunal. Vous imaginez, son mari l'a accusée de crime de lèse-majesté.
Mais c'était un peu vrai.
Nous sommes encore à la préhistoire des États-nations, si vous voulez. Et donc la solidarité familiale de la grande famille que constituent les Habsbourg est d'une certaine façon supérieure même à la nation France, si je puis dire. Voilà, elle changera évidemment complètement d'avis après la naissance de son fils.
Oui, parce qu'elle est encore espagnole et pas
elle
encore française.
Voilà, elle est encore espagnole, si vous voulez.
Elle ne s'est pas acclimatée à ce pays, et le fait qu'elle ne soit pas en bon terme avec son mari ne doit pas arranger les choses.
Ben oui, absolument. Et donc, ça a été terrible, si vous voulez, parce qu'elle a risqué la répudiation, elle a risqué l'enfermement dans un couvent, elle a risqué le divorce, enfin, elle a tout risqué. Et finalement, bon, Il y a une sorte, comment dire, de, presque de pacte de non-agression entre lui et elle, entre Louis XIII et Anne d'Autriche. Songez que Louis XIII l'a même forcé à écrire une lettre reconnaissant à la fois ses fautes et, disons, affirmant que désormais elle serait la bonne épouse, fidèle, obéissante et surtout ne correspondant plus avec ses frères espagnols. Ouais. Je crois que ça a été la pire journée de sa vie, ce mois d'août 1637.
Merci Joël Cornette. Dans le prochain épisode, nous verrons comment des événements totalement inattendus, la naissance inespérée d'un fils, le futur Louis XIV, la mort de Richelieu, puis celle de Louis XIII, vont bouleverser la donne pour Anne d'Autriche. De reine humiliée, elle va devenir puissante régente de France.